Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc Cause Commune, la radio, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine et du vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. C'est un peu dur à suivre parce que c'est en temps partagé avec une autre radio, mais toutes les infos sont sur le site de la radio. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 12 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors, la radio dispose d'un salon web, donc utilisez votre navigateur web, allez sur causecommune.fm, cliquez sur chat et vous pouvez nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission pour réagir ou poser des questions aux personnes invitées aujourd'hui. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références utiles et les moyens de nous contacter. Si vous souhaitez réagir en direct, vous pouvez utiliser le salon web ou vous pouvez également tout à l'heure nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va commencer par le programme de l'émission. Nous commencerons dans quelques secondes par la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, qui portera sur la musique, le domaine public, les droits voisins, avec notamment le projet MuseOpen, la musique classique libérée. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur Open Food Facts, une base de données sur les produits alimentaires faits par tout le monde et pour tout le monde. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calam, bénévole à l'April, qui portera sur la clause pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors on va vous proposer comme à chaque émission un petit quiz et on donnera la réponse au fur et à mesure. Évidemment, vous pouvez communiquer les réponses sur les réseaux sociaux ou nous appeler. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Open Food Facts qui utilise notamment un système d'étiquetage nutritionnel et un système de classification concernant la répartition des aliments en quatre groupes en fonction du degré de transformation des matières dont ils sont constitués. Les questions, quels sont les noms de ces deux systèmes? Évidemment, vous aurez la réponse dans le cadre du sujet long avec une explication détaillée. Deuxième question, lors de l'émission de la semaine dernière, du 5 novembre 2019, notre sujet principal portait sur les femmes et l'informatique. Sauriez-vous citer les noms des associations créées par des femmes, réservées aux femmes, pour notamment qu'elles puissent s'exprimer librement, échanger, rassembler les voix des femmes dans l'informatique et également mener des actions? La réponse en fin d'émission. Tout de suite, place au premier sujet. Texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile? Jean-Christophe Becquet, président de l'April, nous présente une ressource d'une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libres. Alors Jean-Christophe, tu es normalement avec nous au téléphone depuis Digne-les-Bains.
Oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors bonjour Jean-Christophe, et donc le sujet du jour, c'est la musique, le domaine public, les droits voisins et MuseOpen, la musique classique libérée.
En effet, oui, le droit d'auteur réserve au créateur d'une œuvre un monopole temporaire sur l'exploitation de son travail. Ce privilège, qu'on appelle le droit patrimonial, interdit toute reproduction ou représentation de l'œuvre sans l'autorisation expresse de l'auteur. En droit français, cette restriction se prolonge 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, les œuvres basculent dans ce que l'on appelle le domaine public. Le domaine public désigne donc l'ensemble des œuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux ont expiré et dont le public devrait pouvoir profiter librement. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et d'autres droits se superposent aux droits d'auteur pour venir restreindre encore les usages. Ce sont entre autres les droits voisins du droit d'auteur. Dans le cas de la musique, les droits voisins recouvrent les droits des producteurs et des interprètes. Ainsi, pour la musique classique, s'il ne fait aucun doute que les compositions de Mozart, Beethoven ou Chopin appartiennent au domaine public, la plupart des enregistrements sont encore sous le joug de restrictions pour plusieurs décennies. En effet, la durée des droits voisins des interprètes a été prolongée de 50 à 70 ans par le Parlement européen en 2011, Cette directive a été transposée dans le droit français en 2015. C'est pour dépasser ces restrictions qu'Aaron Dune a lancé en 2005 le projet MuseOpen, ma pépite du jour. MuseOpen est une organisation américaine à but non lucratif, dont l'objectif est de libérer les enregistrements de musique classique. Comment ? Eh bien, en proposant à des musiciens professionnels d'enregistrer des œuvres pour les offrir au public. MuseOpen sollicite le soutien à travers des campagnes de financement participatif. Les artistes sont rémunérés. Simplement, au lieu d'une rente basée sur la diffusion de chaque enregistrement, ils perçoivent une rétribution pour leur travail au moment de son exécution. Ensuite, on leur demande de donner leur accord pour une diffusion libre et donc de renoncer contractuellement à leurs droits voisins d'interprète. En 2012, le projet MuseOpen a par exemple levé 68 000 $, environ 62 000 €, 6 fois l'objectif initialement fixé, auprès de plus de 1200 contributeurs. Cet argent a permis de financer l'Orchestre symphonique de Prague pour enregistrer des œuvres de Beethoven, Brahms ou Tchaïkovski. En partageant librement les fruits de ce travail, MuseOpen a contribué à rendre accessible à tous ces trésors de notre patrimoine musical. Le site MuseOpen propose aujourd'hui un catalogue musical riche de plus de 5000 enregistrements partagés selon le régime du domaine public ou une licence libre, la licence Creative Commons by SA. D'autres enregistrements sont sous des licences de libre diffusion, c'est-à-dire qu'ils restreignent les utilisations commerciales ou la production de versions modifiées, licence Creative Commons NC ou ND. On ne peut donc pas les considérer comme libres. Mais pour chaque fichier, MuseOpen indique de manière très claire sous quelle licence il est disponible. On peut donc faire des recherches en filtrant selon la licence. MuseOpen propose aussi un espace de partage de partitions musicales d'œuvres également passées dans le domaine public. MuseOpen propose un accès gratuit mais limité au téléchargement. Pour bénéficier de l'ensemble des services, il faut souscrire un abonnement payant. Notons que ce n'est absolument pas antinomique avec les licences libres que d'exiger une participation financière, par exemple, dans le cas de MuseOpen, pour télécharger plus de 5 fichiers par jour. Comme pour les logiciels, le gratuit n'est pas automatiquement libre, et libre n'est pas forcément gratuit. On trouve d'autres initiatives similaires, comme Open Goldberg Variation, qui a permis de libérer l'enregistrement et la partition des variations Goldberg, une œuvre pour clavecin composée par Jean-Sébastien Bach. Citons également Florence Robineau, pianiste et professeure au conservatoire de Rungis. Elle enregistre des morceaux de musique classique et les partage sous licence libre Creative Commons by SA. Ces projets constituent un bel exemple d'utilisation des licences libres. Il est important de rappeler que ces licences s'appuient sur le droit d'auteur. En effet, dans le cas des interprétations musicales libérées par MuseOpen, Open Goldberg Variation ou Florence Robineau, c'est précisément parce que l'Internet dispose d'un privilège sur son œuvre qu'il peut choisir de la partager sous licence libre.
Merci Jean-Christophe. En fait, ce n'est pas l'Internet, c'est l'interprète. Même Étienne rigole en régie. Je trouve que ce lapsus est assez révélateur. Je précise qu'Open Goldberg Variation, on en a écouté un extrait. Alors, c'est de mémoire, c'était l'émission du 9 juillet 2019, donc les références sont sur l'April et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. On rajoutera aussi le site donc, de Florence Robineau, donc, qui partage ses musiques sous licence libre. Et c'est assez marrant parce que juste avant le début de l'émission, je parlais avec Pierre Slamiche, qui est l'un des invités du sujet d'après. Il me parlait justement de cette difficulté de trouver des morceaux de musique classique sous licence libre. Et j'espère que ta chronique permet de comprendre aux gens qu'au dehors du droit d'auteur, il y a les fameux droits voisins qui fait que ça rend aujourd'hui, effectivement, alors que c'est, comme tu le dis, toutes ces musiques, toutes ces partitions sont dans le domaine public, le fait de trouver des interprétations disponibles librement est très compliqué.
Est-ce oui, en effet. Donc, je rajouterai sur la page de l'émission les références du site MuseOpen, museopen.org, les Open Goldberg Variations et le site de Florence Robineau et quelques articles de presse, notamment sur Numérama, qui expliquent un petit peu la genèse et le succès de ces projets, notamment la levée de fonds dont je parlais tout à l'heure pour le projet MuseOpen.
Bah écoute, excellent. Et donc, comme tu parles de musique classique et de muse open, on va faire une pause musicale, mais qui est intégrée dans ta chronique. Et donc, tu nous as suggéré d'écouter Peer Gynt, Morning Mood, composé par Edvard Grieg. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune,
93.1.
Nous venons d'écouter Peer Gynt, composé par Edvard Grieg, disponible sous licence libre marque du domaine public, et vous retrouverez les informations sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant attaquer notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur Open Food Facts, base de données sur les produits alimentaires faites par tout le monde, pour tout le monde, avec nos invités, Anka Luca. Bonjour Anka.
Bonjour.
Et Pierre Slamiche. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
De l'association Open Food Facts France. Alors avant de leur laisser la parole pour une petite introduction et puis pour lancer la discussion, je ne sais pas si vous avez vu, il y a en ce moment une pub pour une soupe industrielle qui passe à la télé et qui remercie les consommateurs et consommatrices d'avoir fait grandir les soupes. Alors dans cette pub, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est merci d'avoir râlé au sujet des soupes soupe toute prête. On voit une personne qui mange une soupe et qui dit « Ah, c'est tellement salé qu'on pourrait déneiger avec ». Une autre s'interroge « E621, c'est quoi comme légume ?» Alors cette pub est là évidemment pour nous indiquer que le fabricant a amélioré la recette de ses soupes en mettant de l'eau, des bons légumes, des ingrédients naturels. Enfin, si on en croit la pub évidemment. Mais que nous dit l'étiquette ? Ben c'est l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui donc avec Open Food Facts, qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une base de données sur les produits alimentaires faite par tout le monde et pour tout le monde. Donc évidemment, les personnes qui nous écoutent vont être intéressées à la fois par l'utilisation et éventuellement par la contribution. Alors d'abord, une petite question personnelle de le parcours. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Donc on va commencer par Anka, Lucas.
Bonjour, je suis ingénieur informatique à la base, c'est ça mon métier. J'ai fait du développement de logiciels libres pour toute ma vie professionnelle depuis 12 ans maintenant. Et depuis quelques années, j'ai découvert Open Food Facts. J'ai fait des contributions de données libres au début. Après, j'ai fait quelques contributions de logiciels, très peu, de code. Et après, j'ai participé à la vie de l'association. J'ai fait du stand, j'ai présenté le projet aux plusieurs endroits. Et depuis quelques mois, je suis présidente de cette association.
D'accord. Et tu travailles professionnellement pour une société qui s'appelle XWiki, qui fait du logiciel libre et qu'on salue au passage. Pierre Slamiche.
Ben alors moi je suis pas du tout programmeur à la base. Dans une vie antérieure j'étais dans la finance et dans la science politique. Je suis tombé un peu sur le sujet de l'alimentation par hasard. En 2012, on a constaté que c'était très compliqué de se repérer dans les supermarchés. Et donc on s'est dit et si on créait le Wikipédia des aliments. On a cofondé l'association Open Food Fact pour apporter plus de transparence sur les produits quotidiens.
D'accord, donc tu as cofondé avec Stéphane Gigandet. Donc on attaque directement après la présentation personnelle rapide sur la première question. Même si c'est de plus en plus connu, j'ai l'impression, parce qu'on voit de plus en plus de gens dans les magasins avec leur tablette ou ordinateur, téléphone mobile pour scanner les aliments. Donc c'est quoi une application mobile de base de données de produits alimentaires et la genèse du projet Open Food Facts. Quel problème vous vouliez résoudre ? Alors, vu que tu es un des cofondateurs, Pierre, on va commencer par toi. Pierre Slamiche.
On s'était rendu compte que, par exemple, si on veut choisir les céréales de petit déjeuner pour ses enfants et qu'on va au supermarché, on se retrouve face à un rayon qui fait 10 mètres de long où il va y avoir des dizaines et dizaines de paquets, une quarantaine, une cinquantaine de paquets différents. Et au final, on se demande comment est-ce que je fais ? Et du coup, il faudrait retourner les paquets un à un, noter les ingrédients. Enfin, en 2012, il fallait noter les ingrédients et ensuite comparer. Qu'est-ce que veut dire ? Moi, personnellement, j'ai jamais compris le tableau nutritionnel, ce que ça voulait dire. L'idée, c'était de voir si on pouvait collecter toute cette donnée de manière citoyenne, de manière participative, de pouvoir en faire des choses utiles. On en parlera plus tard, calculer le Nutri-Score et ce genre de choses.
D'accord. Donc, Open Food Facts, donc c'est 2012, le démarrage, c'est ça ?
C'est ça. On démarre en 2012 avec zéro produit. Et on vient d'arriver à 1 million. Beaucoup de chemin parcouru en quelques années.
D'accord. Question avant de passer la parole à Anka. Est-ce qu'il y avait à l'époque déjà d'autres outils de ce même genre ? Est-ce qu'il en existait déjà ?
Alors, les bases de données nutritionnelles, ce n'est pas une idée neuve. Il y en avait déjà sur le Minitel.
Je parle avec un téléphone mobile qui permet de scanner.
Alors, c'était une idée absolument nouvelle à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Non seulement, donc, il n'y avait pas de base de données ouverte sur les... Il y avait juste des bases qui appartenaient aux fabricants agroalimentaires. Et en plus, on ne pouvait pas scanner le code barre pour obtenir en un instant, une fraction de seconde, des résultats clairs et synthétiques. Donc ça a été une grosse nouveauté d'Open Food Fact. Et la deuxième grosse nouveauté d'Open Food Fact, c'était que chacun pouvait participer à la révolution alimentaire en ajoutant des produits qui n'existaient pas encore dans la base.
D'accord, ça on va y revenir effectivement sur la partie contribution. Donc les objectifs en cas, c'est quoi ? C'est un meilleur bien-être, c'est de consommer en toute connaissance de cause, quitte à consommer des choses qui sont peut-être nutritionnellement pas très bonnes, mais gustativement très addictives. C'est quoi les objectifs au fond ? Par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce projet ? Et à partir de quand tu as participé à ce projet ?
Voilà, je vais parler pour moi, pour moi seulement, parce que je ne peux pas parler pour les objectifs de chacun. Open Food Facts, comme le nom le dit, il y a quand même le mot facts dedans qui veut dire des faits. Donc on essaie de présenter les faits et de faire en sorte que les gens que les citoyens connaissent les faits sur les produits alimentaires. C'est assez difficile à trancher qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui est une opinion. On essaie de rester dans des choses qui sont très proches d'informations claires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre base de données est construite à partir des informations qui viennent des étiquettes de produits. Donc, pour expliquer un peu comment ça marche pour les gens qui nous écoutent, on scanne un produit avec son téléphone mobile, on scanne donc le code barre de ce produit. Et pour contribuer ce produit à la base de données, on prend des photos de l'emballage de ce produit, une photo du devant de l'emballage et après la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel. Et après, on extrait ces informations de ces images et on les met dans la base de données. Pourquoi l'emballage du produit ? Parce que les lois agissent sur les emballages. Quels sont les... Un producteur, un industriel qui produit des produits alimentaires, il est tenu par la loi de dire le maximum de vérité sur l'emballage. Voilà, j'ai dit maximum de vérité parce que des fois on n'est pas sûr, mais bon, les lois agissent là-dessus et pas sur d'autres sources d'informations. Donc, notre objectif, enfin mon objectif tel que moi je le vois, c'est de fournir ces informations aux gens et de laisser la possibilité aux gens de se faire leur propre opinion en essayant de donner ce qui est connu et accepté comme étant vrai et pas forcément sujet à discussion là-dessus. C'est assez large, c'est assez flou, c'est assez large. Pourquoi je suis venue dans le projet ? Je pense que c'était 2014, 15, je ne me rappelle plus.
2014, je crois.
14, peut-être. C'est à cause des soupes d'une marque qui
ces
passe maintenant,
soupes.
Ces fameuses soupes.
Moi, j'avais préparé l'émission, je savais qu'Anka était venue par
tout
les soupes.
Tout à fait, moi je suis arrivée par les soupes. C'est, j'ai découvert le projet, j'ai croisé Stéphane Gigandet sur un salon, j'ai découvert le projet et après j'ai installé l'application et j'ai commencé à regarder un peu dans mon frigo, dans mon placard. Et c'est à cause des soupes, j'ai découvert qu'il y avait un additif dans une de ces briques de soupe, il y avait un additif qui n'était pas forcément un légume. Je pense pas que c'était le même E de la pub, mais bon. J'étais curieuse de savoir si cet additif se retrouve dans toutes les soupes en briques. Notamment, c'était le glutamate monosodique, ou je ne sais pas exactement le nom. C'est un exhaustor de goût, donc je me suis dit, ça doit être normal, parce que les légumes en briques n'ont pas trop de goût, donc ça doit être dans toutes les soupes. Je suis allée sur le site openfoodfacts.org, et j'ai découvert que non, il y a des soupes en briques qui n'ont pas du tout cet additif, donc un meilleur choix est possible. Et après, c'est à moi de faire ce choix-là. C'est pas voilà. Je me suis dit, c'est très intéressant. Tout le monde devrait avoir la possibilité de faire ce genre de choses, ce genre de recherche, de comparaison de produits et de comprendre et d'avoir l'accès à la donnée qui leur permettra de comprendre un peu plus ce qu'ils mangent.
D'accord. Alors ça vient justement à la question qui va être un peu une question centrale parce que je pense que c'est l'un des points que les gens qui nous écoutent doivent comprendre parce que c'est moi par exemple quand j'ai la première fois lancé Open Food Facts c'est un peu le truc qui m'a le plus perturbé, c'est qu'il y a deux notions donc il y a deux systèmes de notation ou de valeur ou de je ne sais pas qui est le Nutri-Score et l'indice Nova. C'est-à-dire, donc on va expliquer que donc on est dans un magasin, on scanne comme l'a dit Anka le code barre avec l'application Open Food Facts. Et là, on a l'image, la photo qui s'affiche du produit. Et puis, on a deux éléments tout de suite qui apparaissent. Donc, le Nutri-Score et l'indice Nova. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces deux systèmes et à quoi ils servent exactement et est-ce que l'un est plus important que l'autre ou pas? Je ne sais pas. Pierre Slemich.
Donc, comme vient de le dire Anka, un des buts d'Open Food Facts, c'est vraiment de collecter cette information et d'offrir des clés de déchiffrage face à la complexité des étiquettes. Et on veut que ces clés de déchiffrage soient basées sur des faits, sur des travaux scientifiques éprouvés. Donc, on affiche deux scores importants, très importants. Donc, le Nutri-Score, c'est cette note de A à E qu'on commence à voir apparaître sur les emballages et qu'on a calculé dès sa création, donc qui permet d'avoir la qualité nutritionnelle d'un produit. Ça prend en compte des choses comme les protéines, les fibres, donc des points positifs pour ce genre de nutriments qui sont favorables à la santé, et des points négatifs pour les choses un peu plus défavorables comme le sel, le sucre, le gras, etc. Donc ça, c'est le Nutri-Score de A à E, comme une note à l'école. Ça permet vraiment de voir la qualité nutritionnelle. Et puis, le deuxième indicateur qu'on affiche, c'est le groupe Nova. Donc là, ça va de 1 à 4 et ça indique le niveau de transformation d'un produit alimentaire. Est-ce qu'un produit alimentaire est brut, donc par exemple les légumes, les choses qu'on peut aller acheter sur le marché, ou est-ce qu'il est transformé, voire même ultra transformé, donc par exemple le cas de vos soupes, elles sont probablement Nova 4. Et donc c'est un score là, donc autant le Nutri-Score est un score français créé par le professeur Erkberg, donc la personne qui a notamment créé les 5 fruits et légumes par jour qu'on connaît tous, et le Nova est un score de recherche brésilien, donc par le professeur Montero, et donc sur cette problématique de est-ce que les aliments qu'on mange sont ultra transformés, sachant que le programme national Nutrition Santé recommande de réduire cette part d'aliments transformés dans l'alimentation parce que ça pose des problèmes au niveau de la santé.
D'accord. Alors je précise que tu posais la fameuse soupe dont on ne va pas citer la marque. Donc là, je viens d'ouvrir Open Food Facts. Et donc le Nutri-Score, c'est B et l'indice Nova, c'est 4. Et en gros, le Nutri-Score B, c'est surtout parce qu'il y a du sel, mais en quantité quand même modérée. Mais en tout cas, donc on voit. Alors par rapport.
C'est déconcertant.
En fait, justement, je vais en venir à la question parce qu'en fait, en préparant l'émission, moi, j'utilisais pas ces applis-là, mais par contre, j'ai appris qu'il y avait une appli qui existait, une autre application qui existait. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler un peu sur le fonctionnement tout à l'heure, mais qui s'appelle Yuka notamment. Donc, la personne à qui j'ai demandé de tester m'a dit, tiens, Yuka, elle affiche une note de 1 à 100. Et elle m'a dit, c'est beaucoup plus clair, parce que par exemple, si c'est 80 sur 100, et une évaluation sur 4 critères, excellent, bon, enfin très bon, moyen et insuffisant, quelque chose comme ça. En tout cas, la personne m'a dit, ça, c'est pour moi, c'est facile à comprendre, si c'est 80 sur 100, c'est que c'est bon. Et en testant Open Food Facts, la personne m'a dit, mais là, j'y comprends rien, parce que tu vois, t'as un Nutri-Score qui est à B, ou qui est plutôt pas trop mal, et t'as un Nova qui est 4, et bien sûr, ça apparaît en rouge, le Nova 4, parce que c'est le pire. Et donc, ce côté-là, qui peut être un peu perturbant. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous avez à répondre, donc Pierre et Anka?
C'est justement ça qui est très intéressant. On a choisi de montrer le paradoxe du produit. C'est-à-dire que, effectivement, je prends un exemple extrême, le Coca-Cola zéro. Là, il va avoir un Nutri-Score B parce qu'effectivement, il n'y a pas de sucre dans le Coca, il n'y a pas de graisse, etc. Par contre, il y a plein d'additifs dans le Coca zéro. Il y en a même encore plus que dans le Coca classique. Et donc là, il va être Nova 4, donc produit ultra transformé. Donc, on a choisi de ne pas tout aggloméré, de pas mélanger littéralement les fruits et les légumes, les pommes et les bananes ensemble, mais plutôt de montrer, ce produit va être bon nutritionnellement. Par contre, les ingrédients vont être bizarres et on affiche même depuis peu l'impact environnemental du produit, l'impact carbone du produit, et des produits qui sont bons pour vous vont parfois être mauvais pour la planète. C'est ça, donc en fait c'est des paradoxes, et après on tient à donner les cartes en main aux gens pour leur permettre de faire leur propre choix personnel, ne pas leur imposer, ne pas remplacer la confiance aveugle dans un label de qualité d'une marque ou le label rouge ou ce genre de choses par la confiance aveugle dans une application, mais de permettre aux gens de développer leur esprit critique et de prendre du recul face à ces applications qui font floresse.
D'accord. Avant de laisser la parole à Anka, juste, j'avais une question justement de Pierre Bresson, qui est la personne qui a développé l'application Cause Commune, qui me demandait justement, donc concernant l'empreinte carbone des produits, j'aimerais savoir quand cette fonctionnalité sera disponible. Donc c'est déjà disponible l'empreinte carbone ?
Alors, oui, elle est disponible. Alors, il y a quelques limitations parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, l'empreinte carbone. Ça se base en fait sur les ingrédients. Donc, on essaye d'estimer, par exemple, le pourcentage de viande dans des lasagnes au bœuf. On a des données gouvernementales de l'ADEME pour la France qui permettent de dire un kilo de bœuf, c'est tant de kilos de carbone. Et donc, on fait ce calcul-là déjà sur les produits dont on a les ingrédients. Et où il y a donc typiquement les plats préparés à base de bœuf, de poisson, c'est pas encore disponible sur tous les produits et c'est pas encore disponible dans tous les pays du monde.
D'accord. Anka, tu voulais compléter la.
Je voulais compléter sur cette question de affichage de qualificatifs des aliments versus deux notes différentes qui ont l'air contradictoires. C'est aussi parce que les choix alimentaires sont divers et personnels à chacun. Personnellement, c'est mon avis à moi que c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour les raisons pour lesquelles Pierre a expliqué. Parce que ce qui est bon pour soi, ça peut être mauvais pour la planète, mais également parce que chacun fait ses choix en fonction de ses paramètres. Par exemple, le Nutri-Score, c'est intéressant le Nutri-Score parce que il y a des produits, par exemple, que vous allez trouver avec le Nutri-Score E. Et là, les gens, ils ont plutôt tendance à fuir, à se dire « Ah non, faut pas toucher à ça, parce qu'il y a un Nutri-Score E ». Ce n'est pas ça que ça veut dire un Nutri-Score E. Un Nutri-Score E veut dire ne mange pas que ça toute la journée. Mais tu peux le toucher de temps en temps, il n'y a aucun problème. Tu peux manger du chocolat. La plupart des chocolats, je ne sais pas s'il y a un chocolat D, mais la plupart des chocolats ont des Nutri-Score dans les D et dans les E. Ça voudrait dire qu'on ne touche plus jamais de chocolat. Ça veut juste dire ne mangeons pas que ça et ne mangeons pas ça toute la journée. Donc les choix sont compliqués.
D'accord. Alors j'ai une question sur le salon web de la radio. Comment interpréter le fait que le Nutri-Score affiché sur un emballage soit différent du Nutri-Score donné par Open Food Facts ? Il me semble être déjà tombé sur cette cas de figure, mais je n'en suis plus très sûr. Bon, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Est-ce que sur certains emballages, le Nutri-Score affiché est différent de celui que vous donnez ?
Alors, en fait, le Nutri-Score est une série de calculs assez complexes qui se base sur les informations qu'on est capable de collecter sur les emballages. Et notamment, il y a le taux de fruits et légumes et le taux de fibres que malheureusement, la législation n'impose pas aux fabricants d'afficher systématiquement sur les emballages. Donc parfois, il peut se faire qu'on n'ait pas les données sur les fibres et les fruits et légumes, ce qui va faire sauter le Nutri-Score de B à C par manque de données. Donc on affiche des avertissements et on encourage tous les producteurs, s'il y en a qui nous écoutent à l'antenne, à nous envoyer directement les données les plus précises possibles avec les fruits et légumes et les fibres pour qu'on puisse calculer le Nutri-Score de la manière la plus précise possible. Mais généralement, dans 98% des cas, c'est toujours le même.
D'accord. Concernant le Nutri-Score toujours, j'ai vu qu'il y avait une initiative citoyenne européenne pro-Nutri-Score qui viserait à imposer l'affichage donc de cet étiquetage simplifié Nutri-Score sur tous les produits alimentaires. Donc deux questions. Donc je suppose que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, s'il y a une initiative citoyenne. Et est-ce que vous êtes en faveur de cette initiative ? Pierre, Anka, qui veut répondre ?
Anka ? Je peux répondre assez rapidement. Moi, je n'ai pas d'avis arrêté là-dessus, c'est bien de fournir de l'information. En même temps, comme Pierre disait, le Nutri-Score, c'est qu'un paramètre des produits qu'on choisit. Il y en a plein d'autres paramètres. Mais je pense que ce serait plutôt bénéfique de pouvoir voir plus rapidement une évaluation d'un produit.
D'accord. Pierre, Slemich ?
Oui, c'est-à-dire que dans un monde parfait, Open Food Fact n'existerait pas. Donc on est pour que le Nutri-Score devienne obligatoire et qu'on n'ait pas à utiliser forcément une application, une béquille pour pouvoir faire son choix en rayon. C'est-à-dire que devoir scanner les produits à un pour voir le Nutri-Score, c'est tellement mieux. Là, on commence à le voir en France, c'est tellement mieux quand on peut comparer d'un seul coup d'œil le soir quand on fait son marché. Donc effectivement, le Nutri-Score et puis après, si les fabricants voulaient afficher des choses comme le Nova ou l'impact carbone, ça serait génial.
D'accord. Donc là, on comprend mieux ce qu'est le Nutri-Score et l'indice Nova. Là, on va passer rapidement à la partie comment on crée ce type d'application, donc à la fois sur la partie logiciel et puis aussi sur la partie base de données. Donc est-ce que c'est des licences libres dans les deux cas ? Est-ce que c'est créé uniquement par des bénévoles ? Est-ce que vous avez des gens qui sont financés pour développer l'application et maintenir la base de données ? Et question annexe aussi, est-ce que cette base de données, tout à l'heure tu en as parlé Pierre un petit peu, des fabricants, est-ce que vous êtes en contact avec des fabricants pour récupérer automatiquement, enfin qui vous envoient les informations nutritionnelles concernant les aliments ? Donc ça fait plein de questions, qui veut commencer ? Pierre, peut-être que tu as fondé ou Anka, je ne sais pas.
Alors, il y a effectivement plein de questions. J'essaye de me remémorer la première.
Alors, sur la partie logicielle,
la première, c'est
la partie logicielle, la partie base de données, comment vous faites ? Est-ce que c'est que des bénévoles ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont financées pour développer la partie logicielle et puis peut-être la partie base de données ? Anka.
D'un point de vue technique, il y a, on va dire, trois composantes techniques. Il y a le code du serveur, qui fait le site web, donc openfoodfacts.org et tout ça. C'est un logiciel libre, c'est écrit en Perl, s'il y a des gens qui veulent venir participer. Après, il y a l'application mobile, les applications mobiles plus précisément, parce qu'il y a pour chaque plateforme. Je pense que c'est le développement natif aujourd'hui, si je me rappelle bien, Android, iOS, c'est tout.
Ubuntu aussi.
On avait aussi Firefox OS, mais... comme c'est mort. Et c'est peut-être pas mort, je pense qu'il est toujours maintenu par la communauté, donc je demande pardon aux gens qui font ça et pour lesquels Désolée.
Le gel libre n'est jamais mort, il est gelé.
Le livre, il est jamais mort. C'est ça l'avantage du livre. Et le troisième composant technique, c'est la maintenance de tous les serveurs et toutes les opérations qui font que ça tient debout. Tous les logiciels sont libres, développés au début par des bénévoles. Donc tout ce qui a été développé par les bénévoles dans leur temps libre. Et depuis très peu de temps, on a du financement pour des projets auxquels on participe qui nous permettent de financer des personnes qui font tourner l'association, on va dire, et aussi du développement par-ci, par-là, je pense. Je ne pense pas qu'on a des permanents développeurs. Si, on a, pardon, des permanents développeurs.
Bah justement, ça permet de faire le lien avec ce que tu mentionnes sur justement les financements. On parlait des producteurs. Ça nous permet typiquement de créer une plateforme qui va permettre à tous les producteurs d'importer leurs données directement dans Open Food Fact. Donc effectivement, on a des producteurs depuis quasiment le début du projet qui nous disent « Ah, mais c'est génial, comment on met nos données, comment on met nos produits dans Open Food Fact ?» Et donc là, on est en train justement de mettre en place une plateforme qui nous permettra d'avoir des données à jour, complètes et plus détaillées sur les produits, du coup, grâce au soutien de Santé Publique France, qui est l'organisme qui s'occupe de la prévention santé en France.
D'accord. Et donc, on a parlé sur la partie logiciel, c'est des logiciels libres. La partie base de données, une spécificité, c'est qu'elle est disponible sous une licence libre spécifique aux bases de données.
Voilà, logiciel libre et données ouvertes, ça c'est des... et tout est gratuit. Donc ça, c'est des grands principes de l'association. Donc effectivement, on a les logiciels qui permettent de générer ces données ouvertes. D'ailleurs, on l'appelle le product opener, c'est-à-dire décapsuleur en français. Et puis, on a ces logiciels qui permettent de générer les données. Et puis après, les données sont reversées sous forme d'export, sous forme d'API. C'est-à-dire qu'on a une API qui permet...
Interface de programmation.
Voilà, une interface de programmation logicielle qui permet à d'autres applications, d'autres services, de pouvoir bâtir sur Open Food Fact des expériences logicielles dédiées, par exemple, à des diabétiques, à des publics qui seraient...
Publics végans, par exemple ?
Oui, alors des publics, effectivement, on a des applications basées sur Open Food Fact pour les végans. D'ailleurs, on va même bientôt lancer, c'est déjà disponible pour les gens qui sont sur F-Droid et bientôt sur Play Store, la détection des produits végans, végétariens et avec de l'huile de palme.
D'accord, alors je précise que F-Droid, c'est un magasin d'applications libres. Je vous encourage à l'installer, comme ça vous aurez plein d'applications libres, dont Open Food Facts et plein d'autres. Vous avez OpenStreetMap et compagnie. Et donc, sur la partie donc, modèle économique coût, les coûts, c'est bon, l'hébergement des serveurs. Et vous avez donc des financements via des partenariats qui permettent de financer des gens qui vont contribuer techniquement.
Il faut voir qu'on a fait de 2012 jusqu'à cette année, on avait fait tourner l'association avec un budget de 600 euros par an. Donc ça paraît un peu fou, mais c'était essentiellement les coûts serveurs, un petit serveur pour faire tourner le projet. Et on est arrivé comme ça à libérer des centaines de milliers de produits. Donc là, on a cette chance vraiment de pouvoir accélérer grâce au soutien de Santé Publique France sur plus de sujets, dans plus de pays. Donc on a effectivement les deux premiers permanents, Stéphane et moi, et on peut se consacrer à 100% à pouvoir faire grandir l'association, encadrer. On a de plus en plus de développeurs qui veulent investir du temps pour améliorer les applications mobiles. On est en train de faire de l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir extraire les informations automatiquement des étiquettes. Donc c'est plein de choses qu'il faut arriver à pouvoir accompagner, faire grandir pour suivre l'augmentation de la... On a plus d'1,5 million d'utilisateurs, donc il faut arriver à suivre en termes humains la croissance du projet.
Alors c'est une excellente nouvelle. Je ne savais pas du tout que vous étiez Stéphane et toi permanent, et c'est une excellente nouvelle. Alors j'ai une remarque sur le salon web et peut-être une demande d'évolution de l'application. Je ne sais pas si c'est possible et je vais la relayer. Donc c'est Muman qui dit « Le seul souci que j'ai avec l'appli mobile, c'est qu'elle a besoin d'être connectée. Donc sur ma tablette, ça ne marche pas. Est-ce qu'il est prévu et est-ce qu'il est techniquement possible d'avoir une version en mode déconnecté d'Open Food Facts ?» Donc c'est-à-dire avec la base de données téléchargée directement, un peu comme OpenStreetMap le fait avec je ne sais plus quelle application. Donc est-ce que c'est faisable ? Qui veut répondre ?
C'est pas uniquement faisable, c'est fait.
Alors, c'est à moitié fait.
Écoute bien, Muman. Écoute bien, Muman, c'est fait.
Alors, on va commencer par un troll. Donc, ça veut dire que Muman n'est pas sur iPhone, parce que les utilisateurs d'iPhone ont déjà la possibilité de scanner hors connexion. Et sur Android, ça arrive, comme le dit Anka, effectivement, ça arrive. On a des premiers prototypes. Donc, on est arrivé à comprimer le million de produits d'Open Food Fact sur l'équivalent de 4 selfies. Donc, on est arrivé à réduire la taille, à comprimer ça sur un téléphone. C'est assez fou. Et donc, on a besoin d'aide. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre l'équipe Android pour aller plus vite sur les fonctionnalités. Mais ça arrive, on est en train de travailler dessus. Ouais.
Et il confirme qu'il n'est pas sur iPhone, effectivement. Il le confirme directement. Parce que la base de données, ça représente quelle taille? Vous avez une idée?
Alors,
Là, tu dis que ça compresse en 4 selfies, mais en fait, la base originale... Si t'as pas l'idée, c'est pas grave. Hein,
je crois que ça se compte en gigaoctets.
Voilà. Donc sur un téléphone, effectivement, on arrive vite à le saturer.
Voilà, sur du texte. Et là, ce n'est que le texte, que la base de données textuelle. Mais on a aussi des millions de photos. Et là, c'est des téraoctets de photos. Donc, c'est un terrain de jeu absolument formidable pour les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et ce genre de choses. Parce que du coup, on a un impact absolument démesuré quand on travaille sur Open Food Fact.
Je voudrais aussi rajouter, puisqu'on parle de la taille de cette base de données et de tout ça, et on n'a pas complètement expliqué comment ça s'est passé. Ce sont des contributions des gens qui ont téléchargé l'application, scanné des produits, envoyé des photos, rempli des fiches des produits au début, avec de l'aide des bases de données que les industriels ont pu nous envoyer pour les importer et participer à la base de données. Mais à la base, il y a énormément de contributions des utilisateurs auxquels on remercie. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1 million de produits. On est très fiers.
Alors justement, la contribution, on va y venir en détail juste après la pause musicale, mais je crois que vous venez de gagner un développeur parce que Muman, qui continue donc sur le salon web, a dit « Faut dire que la base mériterait peut-être d'être un peu structurée aussi. Sur beaucoup de champs, il y a plein de doublons car c'est des champs en texte libre. » Alors comme Muman s'est développé, je vous enverrai ses coordonnées. Je pense que vous avez gagné un contributeur. Voilà, il nous répondra directement sur le salon.
Donc bientôt.
On va faire une pause musicale. On va écouter Scully Thrill par Slansha. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Scully's Reel par Slansha, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM et sur le site causecommune.fm partout ailleurs. Alors, nous continuons notre discussion donc sur Open Food Facts avec Pierre Slamiche et Anka Luka. Juste avant la pause, Anka avait commencé à parler de l'importance de la contribution des personnes qui utilisent l'application. Et donc, justement, on va voir un petit peu comment contribuer. La première contribution, avait commencé à l'expliquer, c'est l'ajout de produits. Donc, comment ça fonctionne en cas ?
On va au supermarché ou chez soi, dans le frigo ou dans le placard, on scanne un produit, le code barre du produit, on télécharge l'application d'abord, je ne l'ai pas dit, pardon, on télécharge l'application, on scanne le code barre, donc il y a un bouton sur l'application qui dit scanner, on scanne le code barre d'un produit, ça va reconnaître les chiffres du code barre et ça va chercher le produit dans la base de données. Si ce produit est trouvé, on peut améliorer le produit en envoyant des nouvelles images ou des images avec les ingrédients, par exemple si les ingrédients sont pas remplis ou avec le tableau nutritionnel si les informations nutritionnelles ne sont pas remplies. Il y a aussi la possibilité de modifier directement la fiche produit pour mettre à jour ces informations là, mais c'est très important de nous envoyer la source de cette information. Par exemple, si quelqu'un veut mettre à jour les informations nutritionnelles du tableau nutritionnel, c'est important aussi de mettre la photo pour avoir la preuve que effectivement ce sont les vraies données, les bonnes données. Ça, c'est si le produit existe. Si le produit n'existe pas, on commence à prendre des photos et à remplir. Il y a 3 écrans à remplir, il n'y a pas plus que ça. Le premier écran qui demande une photo du devant de l'emballage du produit, le nom du produit et la catégorie du produit. Le deuxième écran qui demande une photo de la liste d'ingrédients qui vont être reconnus automatiquement par un logiciel de reconnaissance de texte. Et donc, on va essayer d'extraire la liste d'ingrédients à partir d'une image pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de taper du texte sur le mobile, heureusement. S'il y a des erreurs, vous pouvez les corriger après, mais ça marche en fonction de la taille de l'étiquette du produit, qui est un sujet, mais en fonction de la taille de l'étiquette et donc du texte sur cette étiquette, ça peut marcher directement, très bien. Et le troisième écran, c'est le tableau nutritionnel. Donc pareil, image et les chiffres qui sont dans le tableau nutritionnel du produit. Une fois qu'on a fait ça, on a un produit qui est correctement rempli et le Nutri-Score et le Score Nova sont calculés automatiquement. Donc on a maximum, on va dire 2 minutes et demie si on a du mal à trouver un bon angle pour la photo, on a le Nutri-Score et le Score Nova pour un produit qu'on s'apprête à manger et on peut savoir un peu plus ce qu'on va manger.
D'accord. Alors, est-ce que le produit est ajouté automatiquement dans la base ou est-ce qu'il y a une validation ou une modération
pour vérifier les éléments ? Il est ajouté automatiquement à la base par le même principe de Wikipédia. On ajoute l'information et on espère qu'avec suffisamment de paires de... Ça se dit, ouais. Tous les bugs seront découverts. C'est le principe du libre, en fait.
C'est la loi de Linus, voilà. De Linus Torvalds. Alors, justement, ça me vient à une question, toujours que vous posez tout à l'heure, en préparant Pierre Besson, sur la fiabilité des données. Est-ce que vous avez noté de la triche ou des données erronées, qui sont deux sujets différents, évidemment. Pierre Slamiche.
Alors, pour compléter, donc, effectivement, il y a ce côté collaboratif, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une communauté de plus de 25 000 personnes. On a 1,5 million d'utilisateurs. On a plus de 25 000 personnes qui vérifient ces fiches, en fait, de manière continue. Et ce qu'on a fait monter ces dernières années, c'est plusieurs choses. C'est d'abord des algorithmes spécialisés de qualité, donc qui vérifient, par exemple, que la somme des nutriments sont faits bien 100 grammes, etc. Donc, ont des écarts à la moyenne. Par exemple, est-ce que ces lasagnes à la bolognaise ressemblent bien à des lasagnes à la bolognaise d'un point de vue ingrédients et d'un point de vue nutrition? Donc, l'intelligence artificielle aide pas mal. Et puis, le troisième pilier sur la qualité, c'est que on a les imports producteurs, en fait, qui sont en train de monter en puissance. Donc, on a de la donnée directement validée à la source. Donc, évidemment, on applique les mêmes vérifications.
Vous leur faites pas confiance par défaut, quand même.
On s'assure quand même que sachant que c'est tellement radioactif, et si s'amusaient à mentir sur les choses, ils auraient des conséquences légales sur les emballages, puisque directement de l'État. Et puis en termes de relations publiques, ça serait un peu radioactif pour eux. Mais voilà les trois piliers. Donc la modération citoyenne, des algorithmes qui viennent renforcer ça, et puis les producteurs qui viennent renforcer directement leurs données. Sachant qu'on a la chance d'avoir un sujet qui est effectivement c'est un sujet passionné, l'alimentation, mais c'est plus factuel qu'un article sur la guerre de 100 ans ou sur des choses qui peuvent porter à polémique.
D'accord. Est-ce que les gens qui scannent dans les magasins pour vous vérifier un aliment, soit pour le rajouter, est-ce que c'est bien vu aujourd'hui par les supermarchés ou autres ou est-ce que un agent, une personne de la sécurité vous dit non comment c'est vu parce que
c'est très intéressant. Voilà, parce qu'il y a des histoires personnelles différentes. Personnellement, j'ai jamais eu de problème dans le supermarché et je me cache même pas. Je sors mon téléphone, je prends des photos, je scanne des trucs. Après, j'ai appris que ça dépend de pays aussi. Il y a d'autres gens qui ont d'autres expériences.
J'ai une anecdote à ce sujet. D'ailleurs, on a un contributeur russe, parce que du coup, OpenFact est présent dans plein de pays, plus de 150 pays. On a un contributeur russe qui s'est fait expulser manu militari de son supermarché local. Donc vraiment, d'accord, effectivement, ça varie.
Donc ça dépend de pays. Après, il y a des histoires un peu moins heureuses que la mienne en France. Et donc j'allais parler de cette histoire de pays. C'est important à savoir que Open Food Fact c'est fait pour être international, pour marcher dans tous les pays du monde. Ça peut être très intéressant de retrouver les mêmes produits dans deux pays différents et de pouvoir comparer les ingrédients. Il y a des gens qui ont eu d'ailleurs des expériences un peu malheureuses dans mon pays à moi. Moi je viens de Roumanie à la base. Et il y a des gens des Français qui sont allés scanner en Roumanie parce qu'ils étaient en visite. Ils m'ont raconté des histoires dont je ne suis pas très fière.
D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, l'une des façons aussi de contribuer au Open Food Facts, c'est de localiser, c'est d'adapter l'application à une langue. Aujourd'hui, c'est disponible dans combien de langues, dans combien de pays en fait? 150, tu as dit, c'est ça, Anka?
C'est Pierre qui a dit.
Donc effectivement, on a des produits dans à peu près 150 pays.
D'accord.
On n'a pas des traductions dans autant de langues que ça, mais on essaye vraiment, on a ce credo que l'information alimentaire, c'est un droit fondamental et ça doit être accessible, quelle que soit sa langue, quel que soit son pays, même si le pays n'est pas, entre guillemets, rentable pour une start-up ou pour un grand groupe. L'idée, c'est que vraiment, quel que soit le téléphone aussi qu'on a, Android, iOS, et qu'on n'ait pas aussi à payer avec sa vie privée. Du coup, typiquement, sur Open Food Facts, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc, on peut utiliser l'application sans filet de données personnelles. Il n'y a pas de tracker dans l'application, etc.
D'accord. J'ai une question. Tout à l'heure, on a parlé de Yuka. Une des fonctionnalités de Yuka dont on m'a parlé, c'est le fait que quand vous avez un produit scanné, qui est un produit, on va dire, avec une note mauvaise, Yuka affiche des alternatives. Et la personne m'a dit, ça c'est vachement bien parce que je n'ai pas à prendre la tête, je vais dans la liste des alternatives et je choisis. Alors j'ai regardé avec Open Food Facts, il n'y a pas a priori, sauf erreur, pour le moment en tout cas, de cette liste d'alternatives. Est-ce que c'est prévu? Avec Yuka, on peut se dire, bon, c'est une start-up, machin, on peut peut-être se dire comment ils mettent les alternatives. Est-ce que derrière, il y a des financements? Alors qu'avec une base de données ouverte, on sait comment ça fonctionne.
Alors, il y a deux points. Donc déjà, effectivement, c'est la transparence des algorithmes, ça c'est important. Nous, si on doit faire quelque chose, ça sera totalement transparent. Il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est végan, quelqu'un qui est musulman, n'a pas l'envie d'avoir les mêmes recommandations selon ses préférences personnelles ou religieuses, ou ses problèmes de santé. Donc nous, on veut que ça soit ultra personnalisé selon qui on est, d'où on vient et ce qui nous préoccupe. Et troisième point, en attendant, donc ça, on est en train de préparer la fonctionnalité. Ça va prendre encore un peu de temps. Et en attendant, sur Android, on a cette fonctionnalité assez sympa qui permet de comparer, de faire un peu son mini UFC que choisir en rayon. C'est-à-dire que, parce que typiquement, si on a une recommandation et qu'elle n'est pas dispo en rayon parce qu'il est 19h et que tous les produits sont partis ou que c'est pas disponible dans son supermarché local, ça sert pas à grand chose. Et si en plus, elle est trop vertueuse, si on veut une alternative au Nutella et que l'application propose des trucs un peu trop vertueux, inintéressants entre guillemets pour la personne, c'est un peu dommage. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est on fait sa présélection en rayon et puis on compare typiquement les lasagnes au bœuf, on peut les comparer entre elles en un instant et voir le Nutri-Score, le Nova et l'impact carbone pour après faire son choix sous contrainte parmi ce qu'on a dans le rayon au moment où on fait ses courses.
D'accord. Anka ?
Ça vaut peut-être aussi de mentionner tous les outils de pas forcément comparaison, mais d'analyse de la base de données de produits qui sont disponibles. Déjà, il y a toute la taxonomie de produits, donc les catégories de produits. C'est facile de trouver les alternatives sans influence d'un algorithme qu'on ne connaît pas. La méthode la plus facile, c'est d'aller naviguer tous les produits dans la même catégorie. Parce que finalement, c'est ça la liste d'alternatives sans classement et sans influence d'une source, on va dire, externe.
On peut créer en une minute sur Open Food Fact, on peut créer son graphe en trois clics.
Et il y a aussi l'outil de graphe, donc les catégories, la navigation par catégorie, et après l'outil de graphe qui permet de faire des graphiques assez intéressants. Graphique assez intéressant avec les différents paramètres nutritionnels des produits qui font partie d'une certaine catégorie, qui sont ou pas bio et ainsi de suite. Ces outils ne sont pas disponibles dans l'application mobile à ma connaissance. Peut-être qu'un jour on va les mettre dans l'application mobile. Ces outils existent puisque la base de données est libre. On peut toujours être un peu plus confiant dans l'algorithme de classification.
Donc la vérification est possible, ce qui n'est pas le cas.
Une vérification est possible, oui, une vérification. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je ne veux pas dire que les autres applications ne sont pas bonnes, parce que je ne sais pas plus que ça. Mais il y a cette confiance, en fait, de la transparence. Il y a la transparence qui donne confiance dans le résultat ou la possibilité de le vérifier.
Exactement. Ce qui est valable ici, valable en sécurité partout. Tout à l'heure, tu as parlé, enfin à l'instant, Pierre, tu as parlé des produits, enfin des données envoyées par les producteurs. Est-ce qu'il y a des données importantes qui manquent encore, ou est-ce qu'il y a des données qui pourraient être plus définies, plus précises ?
Oui, il y en a. C'est-à-dire que, en fait, quand on a commencé Open Food Fact, on s'intéressait aux ingrédients et à la nutrition globalement. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que une personne est venue nous voir en nous disant oui, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. La nutrition, bon, ok. Et donc, du coup, on a rajouté les emballages, le carton, le plastique, etc. Et en fait, au fur et à mesure où Open Food Fact se développe, on se rend compte de nouvelles préoccupations des gens. Par exemple, la question climatique, la question de l'environnement a beaucoup grossi ces dernières années. Et pour pouvoir faire des calculs, par exemple, d'impact carbone ou de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, y a besoin de beaucoup de données. Et ça, les entreprises, en fait, quand on discute avec les fabricants, quand on apporte leurs données, en fait, eux-mêmes ne sont même pas capables de calculer l'impact carbone de leurs produits. Parce que, notamment, les logiciels qui permettent de calculer ces empreintes carbone ne sont pas libres, et les données sous-jacentes pour faire des hypothèses sur ces empreintes carbone ne sont pas libres non plus. Donc, ils sont obligés de payer des cabinets de conseil très chers pour pouvoir calculer ces impacts carbone. Donc, il y a vraiment cet enjeu à créer la donnée sur la traçabilité environnementale et sociale, et ensuite, après, à la rendre lisible et exploitable par les consommateurs.
D'accord.
Ce qui est intéressant au sujet de quelles sont les données qui manquent ou quelles données manquent, c'est que il y a aussi aujourd'hui, par rapport à 2012, il y a aussi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent grâce à l'existence de ce type d'application et de base de données. Puisqu'on a libéré de la donnée, les ingrédients, le tableau nutritionnel, c'est bon, on est d'accord, c'est intéressant, etc. Mais où est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres informations qui sont intéressantes ? Et ces questions-là, on se les pose aujourd'hui parce qu'on a vu que c'était possible avec les ingrédients et les informations nutritionnelles. Donc la transparence fait que la transparence est demandée, en fait. Plus il y en a, plus on en demande.
Genre. C'est-à-dire qu'en fait, en 2012, les gens nous prenaient pour des fous furieux quand on leur disait « on va créer une base de données avec tous les produits du monde ». Et donc, du coup, maintenant, quand on leur parle d'impact carbone, de responsabilité sociale, ils disent « ah ouais, ils ont fait ça sur les... ». C'est comme tu disais, en cas, effectivement, ils l'ont fait sur la nutrition, ils ont été assez fous pour le faire sur la nutrition. Pourquoi ça ne serait pas possible sur des choses qu'on estimait infaisables jusqu'à présent ?
C'est comme, je pense qu'on disait aussi que les gens étaient fous quand ils ont lancé Wikipédia et d'autres projets du même genre. Alors, on va avancer parce que le temps passe très vite, et je voudrais quand même parler quelques mots de votre travail avec des partenaires, parce que c'est assez important, et notamment l'un des partenaires qui est donc EREN, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors, l'EREN, en fait, c'est une équipe de chercheurs français qui, en fait, a conçu, c'était en 2014, quelque chose qui s'appelait le code 5 couleurs à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le Nutri-Score, et qui en fait donc est l'équipe du professeur Hackberg et s'occupe d'analyser en fait les comment dire, la qualité nutritionnelle des aliments et de voir leur impact sur la santé des gens. Donc, ils ont notamment une cohorte énorme qui s'appelle Nutrinet. Nutrinet, c'est en fait des centaines de milliers de Français qui vont noter leur état de santé, qui vont noter également ce qu'ils mangent. Et ça permet aux chercheurs d'effectuer des corrélations entre surconsommation d'un additif, par exemple, et dégradation de l'état de santé. Donc, par exemple, ils ont montré l'impact des aliments ultra transformés sur la santé, sur des questions de diabète, etc. Donc c'est vraiment une équipe qui génère de la donnée pour pouvoir mieux évaluer les questions de l'impact de l'alimentation sur la santé. Et donc on est très heureux de collaborer avec eux parce que du coup, ils se servent d'Open Food Fact pour pouvoir mieux comprendre ce que mangent les gens, quels additifs sont contenus dans ce qu'ils mangent. Et donc, du coup, grâce à des données ouvertes, ils peuvent ils peuvent faire avancer la science. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant pour les contributeurs d'Open Food Fact. C'est pas justement un scan pour soi, mais c'est aussi un scan altruiste qui permet de faire progresser la science.
Okay.
D'ailleurs, ça vaut le coup de mentionner que la base de données Open Food Fact, telle qu'elle était à ce moment-là, a été utilisée pour tester la formule Nutri-Score, c'est-à-dire que le fait que cette base de données libre existe a permis à des scientifiques de vérifier leur travail et de tester le calcul complexe qui est le Nutri-Score contre des produits qui existent et des informations et des produits de la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a uniquement un commun qui peut apporter ça, c'est-à-dire
une ressource partagée.
Voilà, une ressource partagée.
L'étude dont vient de parler Pierre, donc c'est Nutrinet Santé, j'encourage les gens à y participer. Inversement, j'aimerais savoir comment réagit notamment l'ANIA, donc l'Association Nationale des Industries Alimentaires, à Open Food Facts. Est-ce que vous avez des liens ou vous savez comment ils réagissent par rapport à ça?
Alors, l'ANIA, c'est des gens, donc c'est effectivement le lobby des lobbies, entre guillemets, de l'industrie agroalimentaire. C'est des gens qui défendent bien évidemment leur industrie, leurs intérêts. Donc, ils avaient pris position contre le Nutri-Score à l'époque. Et là, maintenant, ils ont annoncé qu'ils voulaient mettre en place un clone d'Open Food Fact, donc une base de données faite par l'industrie, donc qui s'appelle Numalim, qui est en fait une tentative de reprendre la main sur ces questions qui leur ont échappé, donc d'information alimentaire et d'information du consommateur.
D'accord. C'est une tentative en fait d'essayer de contrecarrer en fait le développement d'Open Food Fact pour diffuser ses propres informations.
L'avantage d'avoir une base de données ouverte, c'est qu'on peut faire des choses. Typiquement, le Nutri-Score, c'était une formule sur un papier quand on a découvert ça. On a demandé l'algorithme au professeur Hagberg et on a pu le calculer, on a pu lui donner une existence concrète les gens ont pu se l'approprier beaucoup plus facilement et ça a contribué à sa démocratisation. Le problème de l'EREN, de l'équipe de recherche du professeur Hagberg, mais aussi de toutes les équipes scientifiques dans le monde, c'est qu'avant, ils devaient quémander de la donnée aux distributeurs, à l'industrie, avec des conditions de réutilisation, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec la donnée. Là, l'idée, la puissance de données ouvertes, c'est que du coup, ça permet aux startups d'innover avec plein de créations d'app, ça permet aux chercheurs de mieux chercher et ça permet aux data journalistes, par exemple du Monde, les décodeurs du Monde se sont servis des données d'Open Food Fact pour pouvoir alimenter entre guillemets le débat public.
D'accord. Une suggestion sur le salon web de notre régisseur du jour, donc Étienne, une suggestion de développement croisée avec une base de données recettes pour faire soi-même à partir de produits bruts, donc santé plus environnement. Une idée de développement, je pense que... une idée tout à fait intéressante. Alors, le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes. Donc avant d'oublier, il me paraît important peut-être de parler de vos projets, de peut-être, est-ce que vous avez, tout à l'heure on a parlé de financement, peut-être qu'il y a des appels à dons, des appels à contributions. Donc si vous avez des appels, c'est maintenant avant qu'on oublie.
Pierre Slamiche. Oui, on est en train de préparer le budget 2020 de l'association, parce que du coup ça doit tourner. Et on lance notre campagne de dons de fin d'année. Donner.openfoodfact.org. Ça permettra de financer de l'hébergement, des gens pour bosser sur le projet, de l'infrastructure, de faire progresser les apps plus rapidement.
Les apps sont les applications.
Les applications mobiles. Voilà, de pouvoir faire plus de choses sur plus de sujets.
D'ailleurs, précisons, quand tu dis les applications mobiles, donc il y en a effectivement plusieurs en fait. Est-ce que tu peux en citer une ou deux ou en cas?
Ce sont les différentes versions de l'application OpenFoodFacts.
Ah, les différentes versions, d'accord.
Donc l'application Android et l'application iOS et l'application Ubuntu.
Par exemple, l'année dernière, grâce aux dons du public, on a pu financer, on avait traditionnellement du mal sur iPhone à avoir une version qui soit à jour par rapport à l'application Android. On a pu financer une toute nouvelle version de l'application iPhone avec le scanner connexion, l'historique, etc. Donc ça a vraiment un impact massif parce que ce qu'on n'arrive à construire pour la France, bah du coup est disponible dans plein de langues, c'est-à-dire que ça va permettre à des utilisateurs, je sais pas, aux États-Unis, au Puerto Rico, etc., de bénéficier vraiment de cette transparence alimentaire. Donc c'est vraiment, ça a un impact sur OpenFoodFacts, mais dans tous les pays du monde.
D'accord. Et une autre façon de, je suppose, aujourd'hui, un autre appel, c'est d'encourager les producteurs et autres à vous proposer aussi leurs données directement pour enrichir encore la base.
Voilà, il y a vraiment plein de façons de contribuer. Si on est producteur, on peut contribuer les données de ses produits. Si on est contributeur, développeur, traducteur, ben on peut, si on a envie de rédiger des textes d'explication d'OpenFoodFacts, c'est bienvenu parce que du coup, ça permet de faire parler du projet, ça permet de faire avancer, d'avoir de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, soit si on n'a pas de temps, on peut faire un don à l'association, soit directement contribuer de son temps pour faire progresser la transparence alimentaire en France, mais aussi dans le monde entier.
D'accord. Je regarde sur le salon web s'il y a des questions. Alors, j'en avais une autre, mais qui vient complètement de m'échapper. Mais elle va me revenir. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a, mais je crois qu'Anka y a répondu un petit peu au début, mais est-ce qu'il y a des risques ou des dérives potentielles à vouloir contrôler tout ce qu'on mange? Et pour reprendre une célèbre chanson de Stéphane Escher, est-ce qu'on peut encore déjeuner en paix sans avoir son smartphone à côté pour vérifier tout ce qu'on mange?
Alors, moi, personnellement, je déjeune toujours tranquille, même si je mange plein de choses.
Qu'est-ce que tu as mangé à midi, Anka?
Pas scannable, parce que du coup, il n'y avait pas de code barre. Donc, oui, on peut toujours déjeuner en paix. Le fait qu'on essaie de s'informer un peu, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais pas. Le fait qu'on essaie de s'informer ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque, il faut rien manger. Il faut juste... En fait, il faut. Les gens peuvent s'informer. Et au-delà des gens individuellement, je pense qu'en tant que société, on a besoin de ce genre de collecte d'informations pour pouvoir savoir des choses sur ce qu'on est en train de faire. Et la science citoyenne, donc le fait qu'on utilise ces bases de données pour la science, c'est un exemple. Donc on ne le fait pas uniquement pour soi-même. Et oui, je pense qu'on peut manger parfaitement tranquille. C'est pas parce qu'on utilise une application qu'on va tomber dans la paranoïa de rien manger de ce qu'il y a le code nutritionnel, le score nutritionnel E, par exemple.
D'accord. Je me souviens de ma question, mais vas-y, Pierre.
Oui, non, moi personnellement, sur la nutrition, ça m'a fait un petit peu évoluer. C'est surtout sur la transformation, les produits ultra transformés, que moi, j'ai complètement eu un déclic là-dessus. Après, on peut pas changer son alimentation comme ça radicalement du jour au lendemain, mais ça permet d'avoir cette prise de recul face à son alimentation.
Je pense que c'est la possibilité de découvrir qui est la plus importante. On se sent potentiellement sans choix ou coincé en se disant mais qu'est-ce que je vais manger au autre parce que c'est rapide à préparer et ainsi de suite. Et l'existence de cette information et cette donnée qui existe et qu'on peut consulter permet de découvrir des choses beaucoup plus facilement que de s'asseoir et de réfléchir soi-même. Enfin, c'est réfléchir sans source d'information, ça peut apporter
sans
ce que
fait,
ça peut.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Comme dit Francis Bacon, la connaissance, le savoir rend plus puissant, en fait.
Alors, ça aurait pu être une excellente conclusion, mais je me souviens quand même de ma question. Donc, ma dernière question, c'est comment, un, on peut vous contacter si on veut contribuer, et deux, est-ce qu'on peut vous voir sur des événements libristes ou autres? Donc, je peux penser aux Ubuntu Party, par exemple à Toulouse ce week-end, il y a aussi le Capitole du Livre, bientôt il y a un salon libriste. Voilà, deux questions. Comment on peut vous contacter et est-ce qu'on peut vous retrouver sur des événements?
Alors, moi, je serai à Toulouse, mais avec mon t-shirt Xwiki, pas avec mon t-shirt OpenFoodFacts, mais vous allez me trouver
sur le stand Xwiki.
Sur le stand Xwiki, si vous voulez venir me parler. Je serais ravie de vous parler de OpenFoodFacts aussi.
On sera au FOSDEM en
Bruxelles en février.
Ouais. Et puis, on participe régulièrement à plein d'événements. On est très heureux de pouvoir intervenir dans des événements. Et du coup, pour nous contacter, c'est très simple, c'est contact@openfoodfact.org et aussi, du coup, sur nos espaces de discussion en ligne.
Excellent. En tout cas, je vous remercie de cet échange donc sur Open Food Facts. Donc, c'était Pierce Lamiche et Anka Luka. Je vous souhaite de passer une belle journée.
Bonne journée.
Et à bientôt.
Bonne journée.
On va faire une pause musicale. On va écouter Nomade par Mela. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
Maybe I'm a nomad, never in one place, living off of memories, visits to outer space. It's a combination of reasons esoteric and personal to me. When ancient spells control a situation, I leave. It's the human in me. Never had a room more than a year at a time, leaving invisible statues behind, knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine. No desire to be called continental, till I could say I slept on every continent. Antarctica, you better know I'm coming for you. Too sweet. It's the gangster in me. Too easy.
D'écouter Nomade par Mela, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez le référent sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler de la clause pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons.
Oui, tout à fait. Pour cette chronique, j'ai un peu marché sur les plates-bandes de Jean-Christophe Becquet, qui tient ici même une chronique Pépite Lit où il présente des ressources justement sous licence libre. Et dans sa toute première chronique, qu'on peut télécharger sur le site de l'April, il évoquait le cas d'une vidéo d'une conférence qui était sous licence Creative Commons, mais qu'il ne pouvait pas réutiliser dans une formation parce qu'il n'avait pas cette clause, et qu'est-ce qu'elle avait justement, cette clause usage non commercial. Et donc, dans sa chronique, il parle de l'échange qu'il a eu avec l'auteur pour lui faire retirer cette clause. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui.
Alors, clause, licence, Creative Commons, allez, trois mots de jargon d'un coup, explique-nous ça.
Voilà, alors, les habitués connaissent ça par cœur, mais il faut préciser pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, la licence, c'est un document juridique qui indique les conditions d'utilisation d'un logiciel ou de toute autre production. Je parle sous contrôle, hein. Vous savez, c'est souvent ce long texte que vous faites défiler très rapidement sans lire pour activer le bouton « j'accepte ». vous posez sans poser de questions. Il y a donc de très nombreuses licences différentes. Et dans le cas des logiciels libres, on dit qu'un logiciel est libre quand l'auteur lui a attaché une licence qui assure à l'utilisateur donc quatre libertés, hein, la liberté d'utilisation, la liberté d'examen du code, de modification du code et de distribution du code modifié. Alors, la plus célèbre des licences libres, et la première, c'est la GNU-GPL. Et ces licences, qui sont très utilisées dans le monde du logiciel libre, ont inspiré d'autres licences plus adaptées à d'autres productions intellectuelles, comme les textes et les vidéos. Et une des plus connues, c'est la Creative Commons.
Attention Vincent, attention, on ne dit pas la licence Creative Commons, mais les licences Creative Commons.
Voilà, parce que nous approchons du nœud du problème. En fait, le système des Creative Commons, c'est une famille de licences. Et quand vous avez votre document, vous êtes l'auteur, vous voulez le mettre sous licence Creative Commons, vous choisissez un certain nombre de clauses parmi celles disponibles. Donc il y a par exemple la clause attribution qui demande ce que l'auteur initial soit bien cité, la clause partage à l'identique qui impose de distribuer les modifications sous les mêmes conditions, et la clause NC pour non commercial qui interdit l'usage commercial.
Alors, donc nous y sommes. Alors, pourquoi pose-t-elle problème cette clause pas d'usage commercial ?
Alors, parce que une licence Creative Commons avec cette clause est une licence non libre. C'est en effet la première liberté des licences libres, c'est celle de la liberté d'utilisation, donc y compris dans un usage commercial. Et donc, avec une clause non commerciale, vous limitez la liberté de l'utilisateur. Alors, le problème en fait de cette clause, c'est que elle apparaît comme assez naturelle, même très naturelle, en particulier pour une association qui, en France, est régie par la fameuse loi de 1901.
Donc la loi qui parle d'associations à but non lucratif.
Exactement. Et pour les associations, il y a une légitime fierté à faire partie d'un secteur non marchand. Du coup, je pense qu'elles ont le sentiment que la clause NC est faite pour elles. Donc la difficulté du côté des militants du libre, c'est de montrer en quoi cette clause est un frein à la diffusion de leur production. Donc un exemple, c'est une photo peut pas être mise dans une production en papier, même si cette production était vendue à un prix coûtant, c'est-à-dire juste au prix de l'impression. Je pense que pour les associations aussi, cette clause rassure, parce que derrière ça, il y a quelqu'un, la crainte que quelqu'un profite du travail, qu'il se fasse de l'argent dans le dos de l'association.
Oui, mais ça, c'est un fantasme, en fait.
Alors, je pense que oui, dans le sens où moi, je n'ai pas d'exemple concret d'un vol de données, d'informations ou de quelque chose qui ferait de l'argent là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas d'exemple concret. Mais en revanche, il y a un environnement dont il faut être conscient, quand on est aussi militant du libre, dans le sens où le monde associatif est en ce moment soumis à une très forte pression de rentabilité. Il y a des suppressions de subventions, il y a des exigences de redevabilité excessive, de rendre des comptes, des évaluations comptables et très tatillonnes et très financières, il faut faire du chiffre. Et il y a également ce phénomène dans certains secteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, comme l'aide à la personne, à l'insertion, etc., d'arriver de nouveaux acteurs, adossés souvent à des grands groupes de services, qui les mettent en concurrence et qui leur mettent une pression grâce, entre guillemets, à l'efficacité du monde dans l'entreprise, en fait aussi au fait qu'ils sont adossés à des groupes capitalistiques qui ont des moyens importants. Donc, quand vous êtes avec un militant de l'économie sociale et solidaire, quand on lui parle d'entrepreneur social ou voire même d'obligation à pacte social, c'est la dernière trouvaille venue du Royaume-Uni qui en fait lie les obligations à le financement du monde associatif. En général, quand vous lui parlez de ça, ça lui donne les déboutons. Hein. C'est parce que ça l'attaque aussi dans son fondement, enfin dans sa raison d'être. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un terrain sensible, la question du non commercial. Donc je pense qu'il faut marcher un peu sur des œufs quand on aborde cette question avec une association.
Alors, comment il faut procéder selon toi ?
Alors, moi je pense que le mieux est de procéder en deux temps. Je ne pense pas être le seul à avoir cette expérience. Le premier sens, c'est déjà de convaincre l'association de l'intérêt d'avoir une licence. Parce que tout simplement, beaucoup d'associations ont leur document qui est comme ça, sans indication. Donc, Quand il n'y a aucune licence, ça dépend du juste du droit d'auteur, et donc il n'y a rien d'autorisé. Et donc, déjà, les convaincre d'indiquer une licence. Et dans ce premier temps, la clause non commerciale, parfois, ça peut rassurer. Ça peut rassurer l'association qui limite un petit peu cette diffusion libre auxquelles elle n'était pas forcément préparée. Et je pense que c'est dans un second temps qu'on peut, à partir d'exemples concrets, montrer en quoi cette clause non commerciale constitue un frein et n'est pas très utile et finalement pourrait être supprimée. Bon, par exemple, si l'association gère des données géographiques, par exemple géolocalisées, la clause non commerciale va interdire de les réutiliser dans une base de données comme OpenStreetMap, qui est la grande base de données géographiques. Donc, c'est une valorisation en moins des données pour l'association, et c'est dommage. Dans sa chronique, Jean-Christophe avait procédé comme suit. Il avait d'abord félicité l'auteur parce qu'il avait déjà fait l'effort de mettre sous licence Creative Commons avec clause non commerciale. Et ensuite, une fois qu'il avait félicité, il lui a montré l'intérêt qu'il avait à abandonner cette clause pour permettre une meilleure valorisation, une meilleure diffusion du contenu et de la production, parce qu'en final, c'est ça le but, c'est aussi de diffuser au maximum sa production.
Tout à fait. Donc, il ne faut pas y aller comme un bourrin, façon agressive. Il faut tenir compte du contexte de la personne et effectivement commencer par féliciter la démarche, parce que la personne a entamé, en choisissant une licence de la gamme Creative Commons, une démarche de partage. Et il faut dire aussi que Creative Commons n'explique pas trop au fait quand on choisit les licences, les impacts potentiels. Bon, évidemment, pas d'usage commercial, il peut y avoir différentes interprétations, et je trouve qu'il y a peut-être un manque d'explication. Et donc, il faut y aller en l'expliquant et puis en positivant au départ, en saluant le travail et puis en respectant le choix final de la personne, au fond.
Oui, complètement. Puis dire que finalement, une des clauses les plus importantes, c'est la clause d'attribution, qui est de dire, oui, c'est important que votre travail soit... on garde la source de qui l'a produit initialement. Je pense que d'ailleurs, c'est des meilleures protections contre le vol, parce que quelqu'un ne va pas s'amuser à faire, entre guillemets, de l'argent en indiquant la source et en montrant que sa source, ce n'est pas lui, que c'est une petite association. En termes d'image, ce n'est pas terrible. Donc le plus important, c'est sans doute cette clause d'attribution et de la faire respecter.
Alors, il y a peut-être aussi la clause, c'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer l'importance de la clause de partage à l'identique copyleft. On pourra peut-être en reparler parce que c'est une clause qui permet de protéger beaucoup plus finalement que la clause non commerciale. Puis sur le terme vol, on va rappeler que dans le numérique, il n'y a pas vraiment de vol, hein, parce qu'on ne soustrait pas quelque chose, voilà, c'est juste un terme de terminologie. La conférence dont tu parles, c'est un faible degré d'originalité, et donc la chronique de Jean-Christophe Becquet, c'était dans l'émission du 15 janvier 2019, donc les podcasts sont disponibles sur causecommune.fm et sur april.org. On peut aussi, quand tu parlais des freins, expliquer que par exemple un frein potentiel, tu as parlé de OpenStreetMap, mais on vient de parler d'OpenFootFacts, d'expliquer qu'OpenFootFacts, la licence choisie n'est pas une licence, c'est pas une licence Creative Commons parce que c'est spécial base de données, mais c'est une licence qui autorise la réutilisation commerciale, et que finalement quelque part c'est un commun numérique qu'on développe, et qu'effectivement y a une discussion à avoir avec les personnes pour qu'elles comprennent la démarche et qu'elles fassent leur choix en toute connaissance de cause au final.
Tout à fait.
Écoute, je vais t'appeler Jean-Christophe. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, c'est bon.
Non, mais écoute, merci Vincent, et puis on se voit le mois prochain. Donc c'était la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, on va terminer par donc des annonces, et d'abord la réponse au quiz de la deuxième question. Donc, je vous rappelle la question. Lors de l'émission du 5 novembre 2019, notre sujet principal portait sur les femmes et l'informatique. La question était, sauriez-vous citer les noms des associations créées par des femmes, réservées aux femmes, pour notamment qu'elles puissent s'exprimer librement, échanger, rassembler les voix des femmes dans l'informatique et mener des actions? Eh bien, la réponse était Open Heroine. Le site web, c'est openheroine.org. Et pour le chapitre français, vous pouvez le trouver sur le site de codefort.fr. Et la deuxième structure, c'était Duchesse France, donc duchesse-france.org, sans E à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi il y a une référence à Duchesse. Et je vous encourage à écouter vraiment le podcast consacré à cette émission. Il est en ligne, donc à la fois sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm, car c'était une discussion très riche et vraiment très, très intéressante. Alors, dans les annonces d'événements, il y en a pas mal en ce moment. Donc, ce soir, donc mardi 12 novembre, de 18h à 21h. Il y a l'événement Les Lumières sur les éditeurs de logiciels libres. Ça se passe à Paris, donc je crois qu'il reste encore des places. Mais en tout cas, donc voilà, c'est de 18h à 21h, Lumière sur les éditeurs de logiciels libres. En ce moment, à Grenoble, il y a une initiative intéressante, donc à partir de ce soir, 18h30, jusqu'au samedi 30 novembre, 18h30, c'est Protège tes données perso. C'est organisé à la Turbine COP, 5 esplanades André Farcy à Grenoble. Vous retrouverez les informations évidemment sur le site agendadulibre.org. Jeudi soir, à la FPH où Vincent officie, il y a la soirée de contribution au libre, hein, comme tous les jeudis de 19h30 à 22h. Pour les personnes qui ont un petit peu soif, eh bien, il y a l'apéro parisien du libre, donc c'est vendredi 15 novembre de 19h à 23h au Zigzag Café à Paris. Donc l'apéro parisien du libre, c'est tous les 15 du mois, donc c'est assez facile. Par contre, le lieu change à chaque fois, donc il faut aller sur l'agendadulibre.org pour avoir les informations. Deux événements importants ce week-end. Donc le premier, c'est à Toulouse, Capitole du Libre, donc samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre. C'est clairement l'un des événements les plus sympas de la planète des événements libristes. Et en plus, vous aurez la chance de pouvoir retrouver, alors de mémoire, je crois que c'est 3 conférences April, avec Christian Momont, qui est administrateur de l'April, et qui donne 2 conférences, je crois, et Étienne Gonu qui en donne une. En tout cas, vous avez tous les éléments sur donc mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques. Donc, ils vous parleront notamment des actions institutionnelles de l'April et également du Chapril, donc notre contribution à vous dégoogliser d'Internet avec des services libres et loyaux. Donc, le site, c'est capitoledulibre.org. Et le même week-end, ça tombe mal, mais en fait, bon, c'est comme ça, il y a l'Ubuntu partie donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre, et il y aura un stand de l'April, tout comme à Capitole du Libre d'ailleurs, donc vous aurez le plaisir de retrouver un stand de l'April, et il y a normalement une conférence April, donc que j'animerai pour présenter justement l'émission de radio. Donc pour l'instant je n'ai pas encore la date, j'espère juste que d'un point de vue pratique ce sera dimanche 17 novembre après-midi, ça m'arrangerait en termes de planning personnel. Donc tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Becquet, Anka Luca, Pierre Slamiche, Vincent Calame. Au manet de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Je remercie également à Sylvain Kotzmann et à Olivier Grieco pour le traitement des podcasts. Et je les remercie notamment pour le traitement du podcast de la semaine dernière où nous avons eu beaucoup de problèmes techniques. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm, toutes les références utiles. Et les moyens de nous contacter, n'hésitez pas à nous faire des remarques, des questions, toutes elles sont bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, donc faites connaître Libre à vous et faites connaître la radio Cause Commune. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 19 novembre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la vie d'Ada Lovelace, considérée comme la première personne à avoir écrit un programme informatique. Nous diffuserons l'interview de Catherine Dufour qui vient de publier le livre Ada ou la beauté des nombres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 19 novembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.